France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La science et ses mauvaises consciences, c'est notre série cette semaine. Aujourd'hui, quelle éthique pour les nouvelles technologies ? Nanotechnologie, cybergénétique, science de la cognition et de l'information, on croit savoir un peu de quoi il s'agit, de loin, on devine là-dedans des progrès possibles pour la médecine par exemple, mais on se doute également qu'il y a des risques, des problèmes. Pourrait-on s'approcher d'un peu plus près ? C'est ce que nous allons faire ce matin en découvrant un ouvrage paru chez Vrin en 2024 qui a été dans la liste des finalistes du prix des rencontres philosophiques de Monaco. Il s'intitule « Quelle éthique pour les nouvelles technologies ?» et il est écrit par une philosophe très instruite dans le domaine des nouvelles sciences et nouvelles technologies, Vanessa Nurock. Face à elle, un médecin neuro-oncologue qui sait de quoi il parle, lui aussi. Bonjour Vanessa Nurock.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeure de philosophie à l'Université Côte d'Azur. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Les questions morales vous intéressent depuis longtemps. Vous avez publié en 2011 aux Presses universitaires de France un ouvrage intitulé « Sommes-nous naturellement moraux ?». Vous connaissez bien aussi les théories d'origine américaine dites du care, en français de la protection, de la sollicitude, du soin. Nous en parlerons. Toujours aux Presses universitaires de France, vous avez en 2011 coordonné un livre collectif consacré à Carole Gilligan, qui a largement fondé cette notion de care et l'éthique corrélée. Et puis votre dernier ouvrage chez Vrin affronte, je l'ai dit, la question des nouvelles technologies et de l'éthique qu'il faudrait leur appliquer. Son sous-titre, le sous-titre de votre livre est « Nanotechnologie, cybergénétique, intelligence artificielle ». Et bonjour François Berger.
Bonjour.
Vous êtes neuro-oncologue, vous dirigez à Grenoble une unité de l'INSERM qui s'appelle « Brain Tech Lab ». C'est ça ?
Exactement.
Consacré au développement de neurotechnologies pour les maladies du cerveau. Et en 2018, dans un livre collectif dirigé par Emmanuel Hirsch et François Hirsch, consacré aux questions de bioéthique, vous avez rédigé un article intitulé « Pour un renouvellement de l'encadrement éthique des neurotechnologies ». Nous évoquerons vos analyses. Alors d'abord, j'aimerais savoir l'un et l'autre comment vous vous connaissez. C'est Vanessa Nurock qui nous a suggéré d'inviter François Berger. Jusqu'à quel point avez-vous eu dans vos vies professionnelles respectives des échanges véritablement professionnels autour des questions scientifiques et éthiques ? Vanessa Nurock.
Alors, merci déjà pour cette occasion de se remémorer de notre rencontre. Je me souviens pas, en fait, ça fait une quinzaine d'années à peu près, et j'étais en postdoc, je travaillais, ou même peut-être un peu plus, j'ose pas trop me remémorer, je travaillais sur l'éthique des nanotechnologies en postdoctorat, et François Berger était une des personnes qui s'intéressait à l'éthique, qui travaillait également dans ce champ à partir de sa propre spécialité. Et il faut dire que pour nous, philosophes, c'est parfois assez difficile de trouver des interlocuteurs dans le champ scientifique avec qui parler d'éthique.
Et vous-même, pour ce livre au moins, vous vous êtes approché de très près des questions scientifiques. Ça aussi, peut-être est-ce assez rare du côté des philosophes.
Oui, surtout du côté des personnes qui font de la philosophie morale et politique. Du côté des personnes qui font de la philosophie des sciences, évidemment, c'est plus courant. Mon approche est interdisciplinaire dès l'origine, puisque j'ai moi-même une formation interdisciplinaire.
Et j'ai Vous êtes toujours... scientifique aussi ?
Non, je ne suis pas scientifique, hein, justement, et je l'assume. Et je pense que c'est très important que les philosophes assument de parler d'un lieu d'ignorance aussi, ou en tout cas de non-compétence sur les champs scientifiques. Mais j'ai une formation en sciences cognitives. Donc, qui était à l'époque portée par notamment l'école politique NIC, et où on avait des camarades qui n'étaient donc pas en sciences humaines et sociales, où on avait des cours de neurosciences, de sciences cognitives, de psychologie cognitive, etc., etc. Donc du coup, j'ai un peu bifurqué à un moment, juste après l'agrégation, avant d'entreprendre ma thèse, pour m'intéresser justement à ce champ qui, en France, n'était pas encore pleinement développé, à la différence d'aujourd'hui, puisque maintenant le master de sciences cognitives est beaucoup plus développé qu'à l'époque. Hein, et j'ai vraiment travaillé, du coup, d'emblée, en fait, pendant mes années de formation, au contact de personnes qui étaient dans des labos. Et je pense que ce point, il est très important, parce qu'on n'emmène pas assez nos étudiants dans les labos.
François Berger, vous êtes médecin, neuro-oncologue, donc tout ce qui est cancer du système nerveux, c'est votre spécialité. Voilà. Comment vous êtes approché des questions éthiques et comment vous êtes-vous mis à fréquenter des philosophes comme Vanessa Nurock?
Voilà, en fait, c'est un besoin majeur, négligé probablement par les chercheurs actuellement, puisqu'on travaillait dans un domaine très polémique il y a 20 ans, les nanotechnologies, avec des manifestations dans le laboratoire. Ensuite, j'ai à un moment donné dirigé le centre Clinatech. Là encore, on a été envahis par des gens qui nous ont accusés d'instrumenter le cerveau. Et donc, très tôt, avant ces manifestations, là, on a été conscient qu'il fallait ne pas jouer aux philosophes, mais intégrer des chercheurs en sciences humaines et sociales pour nous confronter à leur vision très tôt dans le laboratoire, ce que Vanessa a très bien appelé l'ethical by design. Et j'ai eu la chance, alors j'ai rencontré beaucoup...
Alors je vous préviens, je suis très très contente que vous prononciez ce terme tôt, parce que je voudrais qu'on le mette tout de suite en exergue, mais je vais vous demander plein de précisions sur ce mot anglais, mais continuez.
Et donc là, c'était le besoin, dès qu'on va avoir une idée dans le laboratoire, qu'on va envisager de la développer chez l'animal, chez l'homme, qu'on va être dans la démonstration. On a un besoin que ça soit industrialisé, mais on a un besoin identique, aussi important, d'être confronté aux questionnements éthiques et philosophiques. Et là, j'étais confronté à beaucoup de philosophes qui, en fait, avaient une réflexion fantasmatique, qui ne regardaient pas la réalité.
Là, vous parlez de vos lectures, par exemple.
Voilà, des lectures.
Quand vous dites confronté à des philosophes. Mais à quel moment avez-vous eu des rapports est-ce que vous les accueillez dans
alors,
votre institution?
Justement, la première a été Vanessa, puisque les interactions que j'avais, c'était des philosophes qui fantasmaient la science, mais qui ne regardaient pas ce qui se passait réellement dans les laboratoires. Et du coup, la rencontre avec Vanessa, où on était dans un congrès sur les nanotechnologies et sur l'éthique, j'ai réalisé qu'on pouvait faire un partenariat précoce avec elle pour vraiment montrer ce qui était en construction. Et mon sentiment, c'est que c'est à ce moment-là qu'il fallait se confronter à l'éthique, ce qui est très peu fait actuellement. Donc maintenant, on se rencontre régulièrement, je lui dis ce qui se passe dans le laboratoire, on travaille ensemble, c'est vraiment une synergie.
Vous accueillez d'autres philosophes aussi, j'ai presque envie de dire jusqu'en salle d'opération, parce que vous intervenez sur le cerveau.
Alors, j'ai même dans un programme européen, avec un philosophe d'Édimbourg, enfin un sociologue, Donald Bruce, qui me disait... Le cerveau, c'est un sanctuaire, on ne doit pas mettre d'électrodes dans le cerveau. Donc je lui ai dit, non, regarde la réalité. Donc il est venu voir ce qu'on faisait à l'époque chez le singe. Il est venu au bloc opératoire, il est sorti après une dizaine d'heures. Et là, il m'a dit, je me suis trompé. Ce que vous faites dans le cerveau, c'est la neurostimulation inventée par Alun Benabid à Grenoble. C'est éthique, le cerveau reste un sanctuaire. Donc le philosophe confronté, le sociologue en l'occurrence, confronté à la réalité clinique et de la recherche en mouvement... s'était rendu compte, en fait, qu'il s'était trompé dans son analyse. Et ça, c'est extrêmement important.
Vous aussi, Vanessa Nurock, vous avez été dans des salles d'opération, qu'il s'agisse de singes ou d'êtres humains. Vous savez ce que c'est qu'intervenir par neurostimulation, par exemple, dans un cerveau? Et ça prend plusieurs heures. Et vous avez vu tout ça?
Non, je ne suis pas allée justement comme... Alors, ce n'est pas si évident hein, de le faire, déjà. Ça demande quand même ça demande une préparation pour savoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait pour les implants cérébraux. Après, je ne crois pas qu'ils fassent ce type d'intervention tous les jours non plus. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça demande une préparation. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en passant, en voyant de la lumière allumée et en passant. Par contre, j'ai travaillé notamment aux États-Unis, à UCLA, au contact de généticiens, par exemple. Pour en suivant les réunions de staff, ce genre de choses, les réunions d'équipe, ce genre de choses, avec en plus le décalage culturel qui est très important avec la médecine américaine. Et je participe beaucoup à des comités d'éthique biomédicaux. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, là, je travaille vraiment en lien direct avec des collègues qui font de l'IA. Donc, j'ai mon champ de spécialité. Je travaille en collaboration. Et c'est vrai que quand François Berger dit on ne joue pas avec les philosophes, ben moi, je suis pas sûre qu'il y ait, je j'aurais pas un partage des tâches. Mais c'est vrai que je pense que c'est important de dire d'où l'on parle, où est notre champ de compétences. Moi, dans le livre, j'aborde 3 technologies, je les maîtrise pas. Il faut que nous, philosophes, on assume, et surtout nous, philosophes moraux et politiques, donc qui n'avons pas forcément une formation philosophique, scientifique, pardon, joli lapsus de pointe, on assume d'aller travailler au contact des scientifiques et d'interagir avec eux. Nous, ce qu'on sait faire, c'est leur poser des questions. Et je pense qu'il faut qu'on garde aussi ce regard d'étonnement. C'est-à-dire que si on est trop immergé dans ces sciences, on a aussi une forme de normalisation.
De banalisation, des enjeux dans votre réflexion.
Qui me semble être important. Donc il y a une question de positionnement qui me semble intéressant. Il faut aussi que nous, en éthique, en philo-morale et politique, on ose aller au contact. Et ça, c'est une difficulté qu'on a en France. On n'est pas très nombreux à le faire.
François Berger.
Et vous voyez, par exemple, hier, on s'est rencontrés. Je dis à Vanessa, ben voilà, au mois d'octobre, on soumet un projet européen qui doit être pour du développement disruptif, où on va associer de l'intelligence artificielle, des avatars digitaux et des avatars tumoroïdes. C'est ces nouveaux modèles vivants. Donc, il faut que tu fasses partie du projet. Et qu'est-ce que tu peux nous apporter sur le questionnement éthique? Donc, justement, là, on est vraiment dans la co-construction précoce. Et Vanessa coordonnera un work package à égalité avec les biologistes, les neurochirurgiens.
Alors, je vous propose de commencer par le soin, c'est-à-dire ce que les nanotechnologies que nous allons définir apporte aujourd'hui aux soins dans le domaine neurologique. Voici une archive sur les nanothérapies, comme on les appelle. C'était un reportage du 8 février 2023 dans une émission qui est diffusée sur le web, plus précisément sur YouTube, et qui s'appelle Allô Docteur.
Certains patients ne peuvent pas recevoir une chimiothérapie parce qu'ils ont une contre-indication, qu'elle soit liée à l'âge ou liée à des comorbidités, et auquel cas il faut trouver de nouvelles solutions pour augmenter l'effet de la radiothérapie. C'est l'objectif des nanoparticules que l'on injecte dans la tumeur avant de démarrer la radiothérapie.
Les nanoparticules sont 1000 à 10 000 fois plus petites qu'une cellule. Elles pourraient révolutionner la radiothérapie. On injecte des nanoparticules d'un métal, l'hafnium, dans la tumeur. Ces nanoparticules ont une très forte capacité d'absorption d'énergie. Sous l'effet des rayons X, elles produisent 9 fois plus de radicaux libres qu'une radiothérapie classique. Grâce aux nanoparticules, la radiothérapie est donc beaucoup plus efficace. Cette innovation a été évaluée dans un essai clinique. Un essai auquel a participé Jean-Claude il y a 6 ans. Il était alors atteint d'un cancer de l'amygdale à un stade avancé.
L'oncologue m'a dit, vous savez, monsieur Pouillet, vous n'êtes pas jeune, on ne peut pas vous faire de chimio. 15 jours après, on me faisait une injection de nanoparticules dans ma tumeur. C'était un nouveau traitement.
Aujourd'hui, Jean-Claude est guéri. L'essai clinique a démontré que les nanoparticules n'entraînaient pas plus d'effets indésirables. Cette technique pourrait être généralisée à partir de 2028, notamment dans les cancers ORL, du pancréas, du rectum et du poumon.
Je vous vois approuver, François Berger, ce reportage a l'air de bon parfait. Niveau.
Parfait, c'est un parfait exemple, il y a tous les mots-clés importants. Le besoin biomédical, majeur dans le cerveau, dans le cancer. La démarche des essais cliniques, c'est-à-dire confronter l'innovation à la démonstration de l'efficacité. Et là, c'est très beau, parce que vous voyez, c'est une histoire qui a mis plus de 20 ans à se développer. C'est probablement Nanobiotics, la compagnie française, qui va sûrement avoir l'autorisation de mise sur le marché de son produit dans les cancers ORL. Donc vous voyez, 20 ans, ça il faut bien le dire, qu'on vend du miracle. C'est une démarche rigoureuse, mais qui marche. Et là, vous en avez montré un parfait exemple.
Alors, il se trouve qu'il y a eu un très bon dossier, j'ai trouvé, en tout cas stimulant pour les profanes, dont je suis, sur la maladie de Parkinson, dans Le Monde, il y a quelques jours, le 16 juin. Donc apparemment, la neurostimulation a changé la donne pour beaucoup de malades de la maladie de Parkinson. Vous pouvez nous expliquer un
voilà,
peu
complètement. Donc la neurostimulation, donc, ça a été inventé par Alim Lubenabid, en 1987, je crois, le premier patient. Et ça consiste en quoi? C'est un traitement symptomatique. Donc en fait, c'est un traitement invasif, micro-invasif. On met une électrode dans un petit trou dans le cerveau et on va la positionner à un endroit qu'on a identifié comme étant hyperactif. Et c'est ça qui génère tout un tas de symptômes dans la maladie de Parkinson. Et Alimlebanim a montré que quand on stimulait, on faisait la même chose que la lésion. Et à l'époque, on faisait une lésion irréversible pour traiter le tremblement ou la rigidité du patient parkinsonien. Et là, il a montré, et c'était assez miraculeux, puisqu'il l'a dit, c'est vraiment un exemple de sérampidité expérimentale, et il a trouvé qu'avant de léser, il y avait la même chose que la lésion, ce qui fait qu'on peut stimuler. S'il y a des effets secondaires, on arrête. Donc ça, c'est vraiment le paradigme, je dirais, de la perfection de l'innovation technologique, puisque s'il y a des effets, c'est un traitement fonctionnel où on module l'activité cérébrale, et s'il y a des effets secondaires, on peut tout arrêter. Donc là, on a un recul énorme, plus de 30 ans. Ça a disséminé dans d'autres pathologies. Et là encore, il faut des essais cliniques, puisque par exemple, il y a eu beaucoup d'espoir dans la dépression, mais les essais de phase 3 ont montré que dans la dépression, ça marchait pas. Mais une révolution technologique, c'est ça le meilleur exemple de l'implant, c'est cette révolution technologique.
Et créer une lésion, parce que la zone est trop active, c'est ça? Et cette lésion, est-ce qu'il y a des gens qui font des réactions problématiques? Il y a rarement des médicaments et des soins qui n'aident d'effets néfastes. Voilà. Et là, on entre dans les questions éthiques, évidemment. Le calcul coût-avantage est déjà un problème éthique. Vous pouvez nous en parler, voilà. Par exemple, dans ce cas de la maladie de Parkinson?
C'est très important. Donc, à l'époque, en fait, vous voyez, les patients qu'on traitait, des patients qui résistaient à la thérapie. Donc, ils avaient un tremblement, ils avaient une akinésie du mouvement très ralentie et aucun médicament ne marchait. Et à l'époque, le traitement de référence, c'était de léser en faisant chauffer localement. Et donc là, ce qu'a montré, donc ça, c'est-à-dire quelle est la référence, c'est qu'on avait un traitement fonctionnel et qu'on ne lésait pas. Et quand on lésait des deux côtés, on avait des effets secondaires importants. Du coup, là, clairement, on était dans un positionnement éthique. Et vous avez raison de rappeler, toute introduction d'une technologie, qu'elle soit dans le cerveau ou en dehors du cerveau, peut avoir des effets secondaires. Et cette crainte, cette hantise des effets secondaires doit être ce qui guide le médecin. Donc ça veut dire utiliser le maximum de l'imagerie, de l'examen clinique pour détecter ces effets secondaires. Et on a des choses extraordinaires pour le faire. Une interaction d'explication, de consentement éclairé avec le patient et sa famille. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On doit absolument pas être dans un positionnement du miracle annoncé, du paternalisme, comme on peut le voir actuellement dans certains développements très médiatisés sur les implants cérébraux.
Donc, allez-y. Est-ce que, quand on a affaire à des maladies atroces où on se sent très impuissant, je pense par exemple, mais je l'ai lu, je ne suis pas du tout savante, hein, le glioblastome qui est une horrible tumeur, n'est-ce pas, du cerveau?
Exactement.
On meurt en 15 mois.
Voilà, l'espérance de vie est de 15 mois et depuis 25 ans, il y a eu très très peu de progrès.
Donc. Est-ce que là, et là c'est encore une question éthique, on va venir au concept éthique avec Vanessa Nurock juste après, est-ce que là, on ne s'autorise pas davantage à tenter des choses, même dangereuses, parce que, de toute façon, c'est gravissime, quoi. On ne peut pas vraiment faire pire que la tumeur elle-même.
Complètement, hein, c'est le positionnement, je dirais, risque-bénéfice. C'est-à-dire que, puisque la pathologie est mortelle, on le voit, par exemple, sur les scléroses latérales amyotrophiques, où là, il y a une espérance de vie à terme catastrophique. Là, on peut tenter de l'innovation. Quand on innove, on est dans l'inconnu, mais vu l'évolution de la maladie, si Vanessa, je crois qu'on a quelques discussions avec Vanessa,
oui,
la situation de risque-bénéfice nous permet de passer à l'acte. Et je dirais même, alors vous voyez, ça c'est un questionnement clinique qu'il y a actuellement, même directement chez l'homme, parce que vu la spécificité de la maladie humaine, tout ce qu'on aura fait chez l'animal ou sur le cellulaire n'est pas très pertinent. Donc actuellement, il y a des passages à l'acte avec un seul patient. Il y a une publication très belle dans Nature Medicine où un chercheur qui avait un glioblastome a dit « moi je pense qu'il faut me faire ça ». Il s'est fait injecter 3 immunothérapies en même temps,
oui,
avant une biopsie. Ensuite, il a été opéré. Fantastique analyse de ce qui se passait chez ce patient unique. Alors là, on est vraiment dans la nouvelle méthodologie clinique. Et ça, ça a été publié il y a 2 mois dans Nature Medicine. Le patient unique, cobaye de l'innovation. Et ça suppose un encadrement extrêmement important, parce que vous voyez, à l'innovation technologique qui veut s'accélérer, doit répondre une innovation éthique, philosophique, et là on a besoin d'être aidé pour pas être dans un désert et dans un scandale éthique, comme on peut le voir, je pense qu'on reparlera d'Elon Musk, donc c'est là qu'on a besoin de cette synergie, il faut accélérer l'innovation, On peut l'accélérer de façon disruptive au plan éthique, mais là, on ne doit pas être tout seul. On a besoin
alors,
de Vanessa.
Justement, Vanessa Nurok, je crois comprendre que cette question, on peut prendre des risques pour mieux connaître une nouvelle technologie éthiquement, plus volontiers, quand la situation est catastrophique. Est-ce que ça ne renvoie pas... Bon, d'abord, est-ce que peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce que ça ne renvoie pas, sur le plan des concepts, à ce que vous appelez, qui est connu comme tel, le dilemme de Colin Ridge. Est-ce que vous... Alors voilà, c'est un concept, le dilemme de Colin Ridge, du nom de l'auteur d'un livre qui s'appelle The Social Control of Technology de 1980. Voilà, je vous tends la perche. Est-ce que ça fait partie des concepts utiles pour penser la prise de risque selon la gravité, prise de risque pour essayer de connaître davantage une technologie? Bon, en quoi y a-t-il un dilemme? Je vous laisse nous expliquer.
Alors, le dilemme de Colin Ridge, c'est quelque chose qui est très habituellement invoqué pour expliquer qu'au début d'un processus technologique, on peut revenir en arrière ou faire des modifications, mais qu'on a peu de visibilité sur les impacts, hein, donc sur les impacts éthiques et politiques ou sociaux notamment, alors qu'à la fin du développement d'une technologie, ben là on peut plus modifier grand-chose puisque la technologie a été développée par définition, mais qu'on a une meilleure visibilité des impacts notamment éthiques, politiques et sociaux ou éventuellement des résultats. Et donc une argumentation courante est de nous installer face à ce dilemme. Moi il me semble déjà en tant qu'éthicienne, hein, très techniquement, à partir du moment où on est dans un dilemme, on a deux mauvaises solutions.
Oui.
Donc, je pense qu'il faut sortir du dilemme.
Et quelles sont les deux mauvaises solutions?
Les deux mauvaises solutions, c'est alors le cas classique de dilemme, évidemment, c'est le choix de Sophie. Et là, les deux mauvaises solutions, c'est d'agir sans savoir, hein, dans l'esprit de ceux qui parle du dilemme de Colin Ridge.
Une prise de risque qu'on ne maîtrise pas du tout.
En tout cas, on ne sait pas comment agir, donc on agit à l'aveugle si on modifie. Et dans l'autre sens, on est au bout du processus, donc de toute façon, on ne peut plus agir. Donc c'est un choix entre agir à l'aveugle, hein, ce qui s'appelle aussi le dilemme du contrôle.
Ouais.
Voilà, ne pas agir du tout. Moi, il me semble qu'il faut sortir de cette vision du dilemme, qu'il faut sortir du dilemme de Colin Ridge, en posant les questions non seulement en termes de risque, mais aussi de care, en utilisant le terme anglo-saxon, parce que justement, en français, ça renvoie à différents concepts, le soin, la sollicitude, mais aussi ce qui nous importe, de quoi nous soucions-nous, de quoi nous chargeons-nous, voilà, et en anglais, on l'entend.
Français, oui.
Et par exemple, en lien avec ce que disait François Berger, qui est vraiment un discours quand même de médecin, cette idée de bénéfice-risque qui est très classique, il me semble que des fois, on assume de prendre des risques pour des raisons éthiques. Et donc que le risque et l'éthique ne sont pas opposés, contrairement à ce qu'on dit habituellement. Et que donc, dans ce genre de situation, ce qu'il faut faire, c'est adopter une posture de ce que, avec des collègues, Marie-Hélène Parizeau, qui est une philosophe canadienne, québécoise, et Raja Chatila, qui est un collègue informaticien, nous avons appelé l'éthique by design, qui, de manière intéressante, un concept qui, de manière intéressante, a aussi été utilisé par d'autres collègues, avec des approches un peu différentes, même par le président Macron, mais là, il n'avait pas trop défini le concept. Cette idée d'éthique by design, elle se définit par deux caractéristiques majeures. La première, c'est qu'il faut poser l'éthique, positionner l'éthique à chacune des étapes du développement. Donc, justement, c'est un
c'est
peu
ça que ça veut dire by
processus.
Design. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi? Design, excusez-moi, mais... En plus, on a beaucoup d'auditeurs qui n'aiment pas du tout qu'on mette de l'anglais partout. Donc, je suis désolée, je
comprends tout à fait. Moi aussi, travaillant avec des Québécois,
voilà. Donc,
des
on va quand même essayer de le dire en français. Éthique by design, ça veut dire éthique par étape par étape, dans un dessin général, au sens DE2SEIN.
Voilà.
Expliquez
c'est compliqué.
Un peu.
Alors, c'est pour ça, en fait, qu'on a gardé l'anglais. Il y a eu toute une discussion. À ce moment-là. Alors, c'est d'une part parce que ça parle mieux aux scientifiques, hein, c'est vrai qu'ils s'expriment dans la langue anglaise, mais aussi parce qu'il nous semblait que ça, le design, le terme de design ou de dessin en français n'est pas exactement la même chose que
dessin
le terme
avec IN ou EIN.
Celui donc que vous utilisiez ne désigne pas exactement la même chose qu'en anglais, comme je parlais de care. Et l'idée d'éthique by design regroupe deux choses, donc l'idée de positionner l'éthique à chacune des étapes du processus, ça veut dire en amont, pendant le déroulement et puis aussi à la fin. Et donc, par exemple, dans les projets comme ce que décrivait François, moi je suis impliquée là-dans deux projets européens de bioéthique où j'ai justement un groupe de travail éthique aux côtés de collègues qui font des recherches et on essaye, alors plus ou moins avec succès, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais d'avoir une réflexion éthique tout au long du projet. Et la deuxième partie, et c'est pour ça aussi qu'on a gardé le terme anglais, c'est d'articuler donc cette éthique by design avec deux choses. D'une part, un équilibre réfléchi qui va des théories aux pratiques et retours, parce que je suis aussi spécialiste de John Rawls, c'est peut-être le point que vous n'avez pas abordé dans la présentation. Et donc j'ai emprunté à Rawls cette idée d'un équilibre réfléchi entre la théorie et les pratiques. Et puis d'autre part, l'articuler à une éthique du care, où justement on se demande par exemple, qu'est-ce qui nous importe ? Et ça, je pense que c'est très important, quand on développe toutes ces technologies, de nous demander qu'est-ce qui nous importe, quelle société.
Et ça peut changer d'une étape à l'autre.
Bien sûr.
Donc, vous faites aussi référence, ce sont des auteurs anglo-saxons qu'on manie peu en France. Donc, je voudrais dire aux auditeurs que c'est vraiment précieux, votre livre, parce que vous nous apportez des concepts d'auteurs qui ne sont parfois pas traduits. Eliot Turiel a écrit en 2002 un livre qui s'appelle « The Culture of Morality », la culture de la morale. Et il dit qu'il y a des problèmes éthiques de premier ordre et de deuxième ordre, et ça a l'air d'être comme une méthode, quand je vous lis. Il faut qu'à chaque étape, on spécifie les problèmes éthiques impliqués et qu'on fasse des choix. Ceux de premier ordre, d'abord, etc. Donc c'est vraiment une méthodologie du raisonnement éthique, c'est ça ?
Alors, il y a ça, et je pense que c'est... Alors, Eliot Turiel est psychologue, hein, il n'est pas philosophe, oui. Mais c'est vrai que justement dans ma méthodologie, j'emprunte, je butine un peu dans d'autres disciplines. Et c'est un psychologue américain dont un texte est traduit, je crois, dans un livre qui avait été, si je ne m'abuse, édité par Dan Sperber, mais dont j'avoue que le titre m'échappe. Mais sinon, il n'est pas traduit. Et cette idée de problème éthique de second ordre m'est venue justement à l'époque où on travaillait sur les nanotechnologies. Parce que nous, en éthique, on était mobilisés pour des questions qui étaient fondamentalement des questions de toxicologie. Et donc, au début, je répondais aux scientifiques, mais pourquoi est-ce que vous me venez me chercher, moi, jeune éthicienne, pour parler de toxicologie ? C'est vous, les scientifiques, qui êtes compétents pour dire ce qui... Où est la toxicologie ? Ils disent la tox dans les nanotechnologies.
Et je me peux permettre d'expliquer un peu ce point, parce que moi je n'y connaissais rien, et là encore vous m'avez éclairé. J'ai cru comprendre que le carbone, lorsqu'on le met en toutes petites particules, nanoparticules, là, est particulièrement toxique et dangereux, c'est ça ? C'est ça le problème ?
Alors, par exemple, pour les nanoparticules de carbone, pour d'autres aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle nano, certaines particules, certains matériaux, leurs propriétés changent. Par exemple, vous savez, les chaussettes qui sentent pas mauvais, qu'on nous vend comme ne sentant pas mauvais pour les personnes qui font du sport ou qui sentent un peu des pieds, pardon, elles sont censées être traitées avec des nanoparticules d'argent. D'argent, parce que l'argent est antibactérien à l'échelle nanométrique. De la même manière, c'est beaucoup utilisé en médecine. Et donc, ces propriétés changent. Il y a des problèmes donc aussi donc de toxicologie. Par exemple, pour ces chaussettes, quand vous les mettez dans la machine à laver, où vont ces nanoparticules ? Elles se déversent dans la nature.
Et ça, c'est un problème éthique de deuxième ordre, peut-être ?
Pour moi, c'est un problème éthique de deuxième ordre, oui. Au sens où ça n'apparaît pas immédiatement. Et à moi-même, d'ailleurs, ça ne m'apparaissait pas immédiatement comme étant un problème éthique. Mais on voit bien les enjeux environnementaux qu'il peut y avoir d'un côté, ne pas sentir des pieds, et donc être un peu plus glamour, mais de l'autre, déverser via nos machines à laver, dans la nature.
Et ça pourrait devenir de premier ordre. Parce que finalement, ne pas sentir des pieds, c'est intéressant, mais si ça fait beaucoup de mal à la nature, c'est l'utilité immédiate qui deviendra un enjeu de énième ordre, avant le problème de premier ordre qui est la toxicité.
Mais je prends l'exemple des chaussettes qui ne sentent pas mauvais pour rigoler, mais par contre, si on pense aux applications médicales qui peuvent éviter des problèmes médicaux importants, là, on est dans une situation où on va se demander qu'est-ce qui nous importe plus. Le biomédical, d'un côté ou l'environnemental de l'autre. Donc deux aspects de la bioéthique, vous voyez. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça suppose d'une part d'avoir des données scientifiques qu'on n'a pas forcément. Donc de dire attention là-dessus, il faut faire des recherches. Ça, c'est aussi notre travail à nos philosophes. De dire mais attendez, ça c'est important, ça pose des vraies questions éthiques, ça pose des vraies questions politiques, ça pose des vraies questions sociales. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de recherche là-dessus? Faites des recherches là-dessus, s'il vous plaît, et d'interpeller à la fois les scientifiques mais aussi les politiques. Et puis, c'est des choix qu'il faut faire à un moment. Alors, si c'est ne pas sentir des pieds d'un côté et abîmer la nature de l'autre, peut-être que le choix sera vite fait. Et encore, ça peut être un vrai problème social de sentir des pieds. Et ça peut briser une vie amoureuse, par exemple.
Il y a peut-être aussi d'autres traitements.
Voilà, il y a peut-être autre chose. Peut-être se laver les pieds un peu plus régulièrement serait une bonne idée, surtout pour les adolescents. Mais quand on est sur un choix entre, par exemple, avoir des lieux médicaux ou des outils médicaux mieux aseptisés d'un côté et de l'autre risquer de déverser des choses dans la nature, là, vous voyez que c'est plus difficile et que ce sont des choix qui doivent être faits aussi de manière collective.
Est-ce que ce que nous venons de dire là, et surtout Vanessa Nurock, pour vous, François Berger, décrit assez bien, je parle de la méthode et de la conceptualisation des problèmes, ce que vous avez d'emblée dans cette émission appelé vous aussi l'éthique by design, c'est-à-dire étape par étape dans un... J'ai encore du mal à... Je vous laisse faire, je voudrais encore mieux comprendre ce que ça veut dire, en fait.
En fait, l'exemple, par exemple, des nanoparticules est important. Dans le laboratoire, on vient de publier un article qui montre que les nanotubes de carbone, le graphène, ça a été financé par un énorme programme européen qui s'appelle le flagship graphène, était capable d'amplifier l'effet de la neurostimulation. Quelque chose qui, dans nos modèles expérimentaux, est assez fantastique. Et là, tout de suite, plein de médecins nous ont dit, on va utiliser ça dans la maladie de Parkinson, et puis dans l'Alzheimer, et puis vous voyez cette espèce de délire techno-push, comme on peut avoir avec les implants cérébraux actuellement. Et là, nous, dans cette approche d'ethical by design qu'on a mis en place, on s'est dit, non, on ne peut pas faire ça. On doit aller dans une... Parce qu'il y a l'imprévisibilité. Elles sont fantastiques, ces nanoparticules. Mais en interaction avec le vivant, il faut admettre, c'est ce qui est fantastique, et c'est là qu'il faut des garde-fous dans la recherche biomédicale, qu'il y a une imprévisibilité majeure. Donc, on a décidé, on est en train donc de designer un essai chez des patients atteints de glioblastome. Et c'est seulement secondairement, étape par étape, qu'on ira dans des pathologies comme l'année de Parkinson, qui altèrent pas du tout l'espérance de vie, et qu'on rappellera qu'il est interdit de faire ça chez des gens qui n'ont pas de pathologie, puisque actuellement on est poussé à développer des technologies qui vont servir à tout le monde pour des utilisations qui n'ont rien à voir avec la médecine. Donc vous voyez, c'est cette analyse de l'environnement, et on a failli, on a un programme dans le laboratoire qui devait développer des interfaces cerveau-machine pour les tétraplégiques, on a décidé qu'on arrêtait, qu'il était plus éthique de mettre des électrodes pour des patients tétraplégiques, et on a transféré le projet sur la surveillance électrique de l'environnement péritumoral chez les patients atteints de glioblastome. Donc vous voyez, ça bouge. On avait eu un énorme, c'est Gaël Offrand-Piret dans le laboratoire, un énorme programme européen pour faire ça, et on a décidé, et ça c'est un peu grâce à l'interaction qu'on avait avec Vanessa, qu'il fallait arrêter, qu'il fallait retourner à des études fondamentales pour voir comment des électrodes se comportaient dans le cerveau, et qu'il n'était pas éthique de le faire chez des gens qui n'avaient pas une espérance de vie altérée.
Alors, ce que j'entends là, et qui est vraiment très intéressant, c'est que, et vous êtes médecin, ça fait partie de votre manière de penser le problème, merci, il faut un besoin, il faut une forme de souffrance pour justifier de prendre un risque technologique. Alors évidemment, tout cela va à l'encontre de démarches qui ne pose pas le problème en ces termes, qui le pose en termes de désir, j'ai envie d'avoir un cerveau augmenté, sans avoir de maladie ou de souffrance singulière. Donc l'incontournable Elon Musk arrive maintenant dans notre émission. Écoutez cet extrait de la radio TV suisse du 30 janvier 2024, peu après la pose du premier implant cérébral par la société d'Elon Musk, Neuralink.
Et cette annonce maintenant, faite la nuit dernière par le milliardaire Elon Musk, sa start-up Neuralink, dont il est cofondateur, a posé son premier implant cérébral sur un patient humain. L'opération a été réalisée dimanche et Katia Scher, les premiers résultats montreraient une activité neuronale prometteuse.
Oui, c'est en tout cas ce qu'Elon Musk a affiché sur son réseau social X. Neuralink entre donc dans la cour des grands quand on parle d'implants cérébraux. Alors à ce stade, la start-up, on est encore à la recherche, aux essais cliniques, hein, pas question de rentabilité, mais les possibilités sont énormes. Ce qu'on appelle le marché des interfaces cerveau-ordinateur, aujourd'hui estimé à un peu moins de 2 milliards de dollars, devrait croître à quelque 3 milliards de dollars d'ici 2028. Alors Neuralink, fondé en 2016, affiche des objectifs très très ambitieux, faire marcher des patients paralysés, diminuer les tremblements causés par la maladie de Parkinson et à plus long terme aussi contrôler des appareils par la pensée. Maintenant, il faut peut-être préciser que les ambitions d'Elon Musk, elles, dépassent le domaine purement médical. Le fantasque milliardaire vise à augmenter les capacités cognitives de l'humain en réalisant une espèce de symbiose avec l'intelligence artificielle, donc homme-machine, de quoi évidemment générer un certain scepticisme ou tout au moins une certaine prudence.
C'est intéressant, François Berger, parce qu'on met quand même les enjeux médicaux dedans. Et d'ailleurs, il est vrai que parfois les découvertes scientifiques se font un peu de manière imprévue. Là aussi, il y a de l'imprévisible. Et à terme, ça pourrait aider aussi le soin. Donc, quelle est votre analyse des projets
Elon
de
Musk ? On est dans le paradigme des pseudosciences, du marché. Vous voyez, on nous a parlé que d'argent. En fait, on nous a très peu parlé de besoins biomédicaux. Et il faut rappeler, donc, les interfaces cerveau-machine, c'est enregistrer l'activité électrique, la décoder avec ce qu'on appellerait maintenant une intelligence artificielle pour guider quelque chose qui va répondre aux besoins cliniques du patient. Ce qu'a fait Elon Musk, et là on est vraiment dans un passage à l'acte qui pose à mon avis un scandale éthique et quelque chose d'extrêmement grave qui est en train de se passer au niveau international. Elon Musk a fait cet essai clinique, il n'y a aucune publication, c'est une boîte noire, c'est absolument invraisemblable que ça a été autorisé par la FDA. Il y a un patient qui a fait une médiatisation complètement folle, sans aucune critique des concepts. Et là, ce qu'on nous décrit, c'est simple, ça a été publié en 2004.
Donc 20 ans avant.
Voilà, ça n'a aucune signification clinique. Et on n'entend pas, nulle part dans les médias qui appartiennent en fait à ces GAFAM qui seront en train de prendre le pouvoir, on n'entend pas que ça s'est déconnecté, que l'électrode miraculeuse ne fonctionne plus chez ce patient. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Elon Musk et Donald Trump ont pris le pouvoir aux États-Unis. Les gens qui géraient à la FDA, qui est l'agence de régulation américaine pour faire des essais cliniques, ont été licenciés, ceux qui avaient en charge le projet d'Elon Musk. Et on entend très peu de critiques sur la rigueur scientifique de ce qui se passe, alors qu'il y a des implants qui fonctionnent très bien, qu'il y a des concurrents d'Elon Musk dont on ne parle jamais, qui avancent à petits pas. Mm-hmm. Donc là, on est quelque chose d'extrêmement grave. Et ce qui est en train de se passer, et ce qu'Elon Musk demande, en fait, vous l'avez évoqué, c'est « je suis malade, mon corps m'appartient ». Et je ne suis pas malade, on peut faire ce que je veux sur mon corps. Et donc, il demande, et ça commence en France, une dérégulation totale, qu'il n'y ait plus de normes, qu'on puisse faire n'importe quoi dans le corps humain. Et
selon le consentement strict des individus concernés, cobayes.
Quoi. Exactement, à qui on va vendre des mythes, des miracles, et là, on va créer des nouveaux marchés. Et c'est donc extrêmement grave, là, l'alerte sur le licenciement des experts de la FDA, puisque là, on est en train de marcher vers une médecine développée sans preuve, vers un accès au marché sans preuve. Et effectivement, Elon Musk a raison de se plaindre. La régulation devrait l'empêcher de faire des pseudosciences.
Est-ce que, Vanessa Nurock, on se retrouve là dans un exemple, voilà, un nouveau concept, de la loi de Gabor? C'est-à-dire, si je vous ai bien lu, Gabor était un scientifique d'origine hongroise. Il n'était absolument pas pour cette loi, mais il l'a conceptualisée. Quand on a une nouvelle technologie, il y a quelque chose socialement qui pousse à la développer, indépendamment de besoins médicaux précis, peut-être même à faire de l'argent avec. Et la question éthique, malgré tout, arrive bien après. Est-ce que c'est ça la loi de Gabor ? C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher que ça se développe sans considération éthique première?
Alors la loi de Gabor ou l'idée qui ou la dite loi de Gabor ou l'idée qui est derrière, c'est quelque chose qu'on entend très classiquement dans les milieux industriels, politiques, voire parfois scientifiques, avec l'idée que tout ce qui est possible sera réalisé. C'est parce qu'une technologie est possible, parce qu'on sait la faire, qu'on va la réaliser. Alors c'est dit hein, de différentes manières. Moi, je travaille beaucoup avec des collègues à l'étranger, notamment donc en termes de compétition aussi internationale, bien évidemment. C'est d'autant plus inquiétant que cette idée selon laquelle parce que c'est possible, alors c'est nécessaire, fait une confusion entre deux concepts différents, que nous, philosophes, nous savons différents, d'une part le possible, d'autre part le nécessaire, sur le plan à la fois ontologique et sur le plan éthique ou politique, mais pose aussi un autre problème, qui est le problème de s'installer dans une absence d'alternative néolibérale, ce que Margaret Thatcher appelait « there is no alternative TINA », l'idée donc qu'on va fermer d'autres possibilités, alors même que Gabor lui-même écrivait que les futurs doivent être inventés. Et donc, on se situe nous-mêmes avec ce type d'idée dans une approche selon laquelle ce qui est possible est ce qui doit arriver, c'est-à-dire une forme de prophétie autoréalisatrice qui est d'autant plus problématique qu'elle est articulée à d'énormes moyens économiques et politique, avec souvent une confusion d'ailleurs entre les deux régimes, et où on nous présente donc ces innovations technologiques sous le regard de lendemain qui chante et de lendemain auquel nous ne pouvons pas échapper. Un autre slogan d'Elon Musk lors d'un show qui, il faut bien l'appeler là par un nom anglo-saxon que les auditeurs auditrices me pardonnent, mais c'est ce que c'était, qui s'appelait « We Robot, Nous Robots », le slogan, et que vous pouvez voir d'ailleurs sur le site de Tesla, le slogan était « The future is now », le futur c'est maintenant. Mmh. Avec cette idée donc que puisque le futur est maintenant, on ne peut pas y échapper.
Alors, il y a d'autres exemples de cela dans votre livre, puisqu'il y a tout un chapitre sur la cybergénétique, qui semble être un développement, là c'est encore la profane qui parle, moi j'ai vraiment tout appris là dans votre ouvrage, un développement à partir de travaux génétiques. Et vous avez l'air de dire que ça ressemble, de mon point de vue, à ce que fait Musk dans d'autres domaines. Oui. Ça a très vite généré, les développements génétiques et cybergénétiques, de là, je vous cite, génétique récréative. C'est-à-dire qu'il y a eu des entreprises, vous évoquez Church, l'entreprise Gnome,
mais ouais. C'est surtout 23andMe qui voilà, est le plus connu. Hein.
Voilà, mais vous évoquez tout de suite, dès 2007, cette entreprise qui propose un séquençage pour 350 000 dollars, puis les prix ont bien baissé, et aujourd'hui, génétique récréative, tout le monde fait son petit test pour connaître ses origines, pour savoir quel médicament marche bien sur soi et quel médicament ne marche pas, comment il faut s'alimenter, etc., etc. Est-ce que c'est un exemple, là aussi, de la loi de Gabor? Tout ce qu'on peut faire, et bien finalement, on va le réaliser sur un mode d'abord récréatif et pas forcément éthique.
Alors, il faut faire attention parce qu'évidemment, les tests génétiques sont très utiles dans le champ biomédical. Là, ce dont je parle dans le livre, c'est justement cette génétique récréative qui maintenant a connu un tournant d'ailleurs. Donc, ce sont les tests qui sont interdits en France, mais qui sont parfois faits par des Français. Il y avait eu une très bonne émission qui avait bien montré cela il y a quelques années. Très développés aux États-Unis, mais qui maintenant sont arrivés à un point mort, puisque justement la principale entreprise de cybergénétique, donc de génétique récréative, cybergénétique c'est simplement le croisement, donc de cybergénétique récréative. Cybergénétique c'est juste le croisement entre Internet en gros et la génétique, hein. Le terme a l'air barbare.
Ah, c'est ça que ça veut dire.
Pas oui, tout simplement.
Donc croisement, c'est le média sur lequel on évoque.
Oui, c'est le fait que ces compagnies utilisent aussi, par exemple, des forums pour que les personnes se rassemblent en fonction de leurs résultats génétiques. La possibilité aussi de télécharger les résultats qu'on a eus sur des sites pour rencontrer des gens, mais sachant que ces sites ont été utilisés en fait par notamment le FBI pour retrouver des personnes recherchées en croisant en fait les données génétiques qu'avaient la police.
C'est peut-être pas le mauvais usage d'ailleurs, non ?
Bah si, parce que c'était fait à l'insu des gens et sans leur autorisation, donc c'est quand même un petit peu délicat. Ça pose certains problèmes éthique, quand même. Et là, la principale compagnie 23andMe vient de faire faillite et on ne sait pas où vont aller les données des personnes, en plus, les données des personnes. Mais pour finir sur votre question, c'est une forme de prophétie autoréalisatrice parce qu'on dit aux gens comment ils vont devenir en fonction de leurs gènes. Et là, je pense que le médecin, le biologiste, pourra développer beaucoup mieux que moi les problèmes que ça pose. Et moi, ce que je développe, c'est la manière dont ça change nos identités, qu'elles soient individuelles, collectives, familiales, avec pourtant des résultats qui sont complexes, parce qu'ils sont notamment interprétés en fonction d'une certaine vision du monde qui dépend aussi de la lecture de ces compagnies. Donc, par exemple, en termes d'origine, la manière dont ces compagnies vont lire les tests dépend de leur vision des répartitions des populations à certains moments du temps qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'ils décrivent. Mais je pense que le biologiste sera
François Berger, homme biologiste, neuro-oncologue, on vous écoute sur les tests génétiques.
Ce qu'il faut rappeler sur les prophéties, c'est justement la difficulté de la recherche biomédicale, c'est qu'on est confronté aux faits, et que les faits, heureusement, le problème c'est qu'on perd des années et on génère des risques chez les patients, les faits reviennent et actuellement, ce qui était vendu par 23andMe, c'était que avec le séquenceur de votre génome, on pouvait prévoir vos maladies, tout anticiper, une espèce de miracle génétique. Ça, on sait que c'est complètement faux. Le nombre de maladies liées aux gènes est très très faible et notre comportement, enfin tout ce qu'on nous fait, n'est pas lié dans les gènes, mais il est lié dans notre interaction avec l'environnement. Et c'est la même chose sur les implants. Le cerveau n'est pas un ordinateur. Le cerveau, une fantastique architecture tissulaire en mouvement. Donc vous voyez, on nous vend des pseudo-sciences. On crée un marché à partir de ça et heureusement, il y a une réalité qui revient. Malheureusement, on le voit avec les implants, on va utiliser les technologies dangereuses de plus en plus chez des gens qui sont pas malades. Sur la génétique, ça pose des problèmes de privacité, l'assurance...
Privacité de vie privée
Parce qu'avec votre génome, on peut vous identifier, donc là, il n'y a plus aucune protection. C'est toute cette différence essentielle.
Les data, comme on dit, les données data, qui traînent partout sur Internet, sur vos origines... Supposer d'ailleurs, parce que comme vous venez de le dire, il faut aussi tout un paradigme pour établir la notion d'origine.
Voilà, avec une protection énorme en Europe des données médicales, absolument nulle aux États-Unis. Et là encore, le rêve, c'est qu'on internationalise cette libéralité des données humaines, alors que c'est extrêmement important de protéger les données. Avec une IRM, je peux vous retrouver, je peux retrouver votre adresse. Enfin, vous voyez, donc là, il y a une protection du citoyen qui est extrêmement importante vu le pouvoir de ces technologies.
Je vous en prie, allez-y.
Je peux juste dire une chose qui est importante de dire ici, c'est qu'il faut bien distinguer les apports scientifiques et médicaux de la génétique justement encadrée, biomédicale d'un côté et d'un autre côté cette génétique récréative qui est complètement intégrée dans tous les éléments par des entreprises qui veulent faire de l'argent.
Mais vous connaissez aussi l'objection, je veux dire, ça ne veut pas dire que je la partage, je la délivre, qui est de dire pourquoi les médecins devraient-ils être les seuls garants de l'usage éthique des nouvelles technologies ? François Berger.
Là, vous avez complètement raison. C'est pour ça que j'ai demandé l'aide de Vanessa. Ce qu'il faut mettre en place, en fait, c'est une gouvernance qui intègre les patients. Puisqu'en fait, que veulent les patients ? On n'écoute pas les patients. Le patient tétraplégique, il n'a pas envie d'être suspendu en l'air avec un implant. Il a envie de remarcher, il a envie de retrouver une sexualité. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut, et ça, à mon avis, c'est essentiel, il faut vraiment faire une communauté où il y a des chercheurs, des sociologues, des philosophes, les patients, leurs familles.
Et des non-malades aussi.
Et des non-malades, voilà, exactement.
Le désir d'être plus performant, il y a mille choses à en dire, mille choses à critiquer dedans, mais il existe. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Nous sommes dans une société qui adore ça, la performance. Le sport lui-même, qui est une tellement belle chose dans la vie des humains, est aussi fondé sur la performance. L'idée aussi d'une excellence intellectuelle, artistique. Comment empêcher les gens de se dire, je ne suis certes pas malade, mais je pourrais être tellement plus fort en utilisant cette nouvelle technologie, pourquoi est-ce que je m'en priverais ?
Alors, le problème, c'est qu'on leur a généré ce désir, puisqu'on leur a raconté n'importe quoi. Actuellement, c'est clair, le fonctionnement de ça, c'est très important de le rappeler. Tout ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau, vous voyez, la meilleure façon de vous améliorer, c'est de faire de l'activité physique adaptée et de prévenir la maladie d'Alzheimer et d'augmenter votre capacité mnésique. C'est pas les implants, c'est pas les bandeaux externes. Toutes les technologies qui ont vendu ça n'ont jamais pu démontrer que ça fonctionnait.
Bon, alors
donc,
ça...
Vous voyez, mais du coup, c'est très important.
Vous nous rassurez par le fait que la science n'est pas aussi forte qu'elle le prétend.
Voilà, c'est ça.
Se rassurer à moitié. Oui, Vanessa, je suis désolée, d'ailleurs, on arrive vraiment à la fin, mais c'est vrai que vous mettez l'accent sur un concept, un livre d'ailleurs, de Jacques Ellul, qu'on ne lit pas très souvent, qui s'appelle Le Bluff Technologique de 1988, où lui, précisément dit, le grand risque, c'est qu'il y ait une banalité, je le cite, une banalité rassurante, innocente de tout ce qui est technologique. C'est le fameux récréatif que vous évoquiez. Ça vous inquiète, vous aussi?
Oui, cela m'inquiète parce que c'est ce que Jacques Ellul appelle l'encerclement par l'évidence. Cette idée, justement, qui est en quatre étapes. Alors là, je sais qu'on arrive à la fin de l'émission, donc je ne vais pas avoir le temps de développer. Mais l'idée, justement, que un système technicien, tel qu'il l'appelle, s'installe. Alors, à l'époque, il était visionnaire, parce que là, on le voit vraiment en train de s'installer. S'installe dans un climat qui semble être un climat apaisé, neutralise, du coup, nos normes éthiques et politiques. Et en discutant, justement, hier avec François Berger, on se disait, ça neutralise non seulement nos normes, mais aussi les faits. Et ce qui est un fait, et donc pour vous journalistes, c'est évidemment une question qui est fondamentale et qui mériterait, je pense, d'en reparler pendant plusieurs émissions, installe une évidence, un sentiment de personnalisation, de normalité, de banalisation, qui fait partie justement de ce « il n'y a pas d'alternative », de cette prophétie autoréalisatrice qui me semble absolument problématique. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire ce que nous disait Gabor, c'est inventer des futurs. Et là, malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de l'intelligence artificielle, qui est vraiment le dernier.
On a consacré plusieurs émissions
d'accord.
à cela.
Mais
culpabilité de d'accord. mais en parler.
Mais qui fait partie de ce système technicien, parce que vous en avez parlé séparément. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont, sans qu'il y ait de complot, soyons clairs, mais dont toutes ces technologies ont des points communs et s'installent en système. Pour qu'on ait l'impression que tout ce qui est possible doit être réalisé, que nous n'avons plus donc une neutralisation des normes, une neutralisation des faits, qui est ce sur quoi nous devons écrire un article maintenant en continuité avec justement cette neutralisation des normes, et l'impression qu'on n'a plus de choix. Et je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réouvrir des choix en ayant une attitude qui n'est ni technophile, ni techno-push, comme dit François Berger, ni technophobe, mais qui est ce que j'appelle technosophe, donc une idée qu'il faut vraiment essayer de développer ces technologies dans un sens de progrès humaniste et en gardant un sens critique.
Cerveau bloqué, ne s'y reposez pas. We'll be right back. cerveau bloqué, laissez reposer. Cerveau bloqué, laissez reposer.
Oui, c'était, excusez-moi, j'ai pas entendu. Il s'agit de Fred Grandgousier, Cerveau bloqué, laissez reposer, une chanson de 2024. Je vous remercie beaucoup Vanessa Nuroc et François Berger pour toute cette discussion ce matin. Voici à présent la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse à l'accord et au désaccord. Voici le pourquoi du comment.
Comment peut-on se disputer ? Ces chroniques ont pour titre le pourquoi du comment. Ce sont donc normalement des questions. Et en effet, elles commencent toutes par pourquoi et comment, et elles posent des questions. Mais il y a un étrange usage de ces deux termes qui peut transformer la question d'abord en exclamation, en surprise, qui nous donne à réfléchir. Et par exemple, le titre de la question que je voudrais traiter aujourd'hui, comment peut-on se disputer, c'est aussi quelque chose que nous nous adressons. Par exemple, après une dispute, comme une exclamation, comme un étonnement rétrospectif. Comment avons-nous pu nous disputer ? Comment avons-nous pu nous fâcher pour une broutille, parfois pour quelque chose qui nous paraît secondaire, mais au point que cela nous a emportés dans une colère parfois réciproque et qui parfois a joué le rôle aussi de réglage de la relation, comme on sait que les émotions, y compris les émotions négatives, ont un rôle de régulation des relations. Oui, nous ne sommes pas toujours seulement dans la dispute théorique, dans la disputatio au sens un peu ancien du latin qui fait la controverse, l'argumentaire, la dispute philosophique, la dispute théorique. Non, parfois nous sommes dans l'émotion, dans l'affect, et justement parce que nous avons des relations personnelles avec les autres, parce que nous ne sommes pas seulement des êtres abstraits qui défendent des positions extérieures, même si cela aide aussi à pacifier les conflits. Et par exemple, au Parlement, on aimerait bien que les gens ne se disputent pas, mais disputent sur la gauche et la droite, les meilleures manières de servir la nation, et la démocratie et la justice. Mais justement, nous nous exclamons parfois, nous nous exclamons « Comment avons-nous pu nous disputer ainsi ?» Et dans ce sens réfléchi, de se disputer, qui peut mener à la guerre, à la dispute comme combat, comme rivalité. Nous nous disputons pour, nous disputons un combat. Eh bien, dans cet entre-deux, entre la dispute rhétorique, théorique, parlementaire, d'un côté, et la dispute guerrière, il y a ce déchirement intime de se disputer entre nous, parfois pour pas grand-chose, et qui donne lieu à une exclamation qui oriente déjà, non pas vers une réconciliation naïve, comme s'il ne s'était rien passé, mais plutôt comme une réflexion sur les attachements et leurs ébranlements possibles. Oui, il arrive que nous nous disputions pour pas grand-chose, et ce pas grand-chose qui montre bien qu'il n'y a pas de fracture et de rupture morale profonde derrière, ce pas grand-chose nous oriente justement vers l'intensité de nos relations, vers la nécessité de respecter la singularité de l'autre, sa différence profonde, ses mystères, ses problèmes, comme on n'a pas seulement des thèses abstraites à mettre en commun, mais aussi au fond, et on le sait, les uns avec les autres, des profondeurs, des affects profonds qu'il faut arriver à exprimer, que la pudeur doit permettre d'exprimer sans tout dire, sans se dévoiler à chaque fois, et pourtant avec le sentiment que l'autre respecte les résonances profondes de ce que vous êtes en train de lui dire. Oui, quand on se parle vraiment, on peut exprimer un désaccord. Bergson, suivant Socrate, disait même que c'est l'intérêt de la discussion. À un certain moment, devant la thèse de l'autre, je dis non, je ne suis pas d'accord. Mais dans cet éveil, grâce à l'autre, de mon propre refus, de ma propre liberté de penser, s'ouvre la discussion philosophique en même temps que la relation pratique. Cela peut passer par un peu d'emportement, mais cela reconduit toujours à la réalité de la relation entre les humains.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Armance Bourquin et Nassim El Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!